Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie d'Estelle Villeneuve pour évoquer la découverte de la Pompéi du désert. Je veux parler de l'antique cité de Doura Europos. Située sur le fleuve Euphrate en Mésopotamie, nous verrons en fait que nous sommes à la frontière de la Mésopotamie, soit la Syrie orientale d'aujourd'hui, une zone hélas de guerre et de pillage. L'histoire nous apprend que cette ville a été abandonnée en l'an 256 après Jésus-Christ, et la redécouverte accidentelle en 1920 bouleversa l'histoire de l'art par les peintures murales exceptionnelles d'une synagogue, mais aussi par la mise au jour d'une domus ecclesia, un édifice de culte chrétien aménagé dans une maison particulière. C'est, dit-on, la plus ancienne chapelle chrétienne conservée et précisément datée, pourvue d'un baptistère et ornée de fresques. Estelle Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, spécialiste du Proche-Orient biblique et journaliste pour Le Monde de la Bible. J'ai trouvé l'évocation de Doura Europos, cette cité du désert qui nous rassemble ce matin, dans un livre que vous venez de faire paraître aux éditions Bayard et qui s'appelle « Sous les pierres, la Bible, les grandes découvertes de l'archéologie ». Un livre qui résume d'une manière accessible, élégante et précise au plus grand public, les formidables découvertes qui commencent au 19e siècle, on parle d'archéologie, lorsque les explorateurs commencent à s'aventurer dans les provinces les plus orientales de l'Empire ottoman. Alors comment vous est venue l'idée de ce travail ?
Alors à l'origine de ce livre, il y a ma collaboration avec la revue Le Monde de la Bible, pour lequel j'animais la chronique d'archéologie, donc d'actualité archéologique. Et alors le rédacteur en chef de l'époque m'avait demandé de raconter les belles histoires de l'archéologie, vraiment qu'on me raconte des histoires d'aventures, des aventures humaines. Et donc en particulier celles qui avaient un peu modifié le regard qu'on pouvait avoir sur la Bible. Donc comment l'archéologie avait servi ou n'avait pas servi les études bibliques depuis ses origines. Et donc, alors je me suis plongée dans toutes ces histoires-là avec grand bonheur. Et celle de Doura Europos m'avait particulièrement intéressée parce que elle venait faire un peu exploser les idées reçues sur la loi juive, en particulier sur celle des images. Comment se fait-il que dans une synagogue on trouve des fresques?
Alors là, vous allez directement dans le cœur de notre sujet, parce que c'est fait effectivement en 1920. Je crois qu'on ne trouve pas tout de suite.
Non,
voilà.
Non, alors,
il y a deux découvertes majeures pour l'histoire de l'art.
Vous avez tout à fait raison. Et d'abord, il y a la redécouverte de Doura Europos en tant que telle.
Une ville oubliée.
Une ville oubliée depuis 256, le jour où la ville était tombée sous les coups des Perses sassanides, et à partir de ce moment-là. Eh bien, il ne s'était plus rien passé. La ville n'avait pas été reconstruite. Et donc, dans les années 1920, si vous situez bien l'époque, on est au lendemain de la dissolution de l'Empire ottoman. Il y a du rififi entre les Arabes et les Britanniques qui avaient été les agents des événements. Et un détachement de l'armée britannique fuit la ville de Deir ez-Zor, qui était la grande ville sur l'Euphrate, du côté syrien, et se replie derrière ses remparts antiques. Alors, derrière ces remparts antiques, ils creusent un retranchement.
Mais des remparts, c'est des tumulus peut-être.
Alors non, c'est des remparts. On voyait encore bien à l'époque la ligne des remparts, ces remparts géométriques bien carrés. Et qui avait offert une protection dans l'Antiquité et qui offrait une nouvelle protection pour cette escouade de Britanniques, ce réfugiant-là. Et donc, ils creusent des tranchées. Et en creusant des tranchées, un pan de terre s'effondre et laisse apparaître une superbe mosaïque aux couleurs, fresque, peinte aux couleurs extrêmement vives, ces deux grands personnages drapés de blanc et qui sont en train d'offrir un sacrifice. Alors évidemment, ça,
c'est l'imagination
s'enflamme et puis c'est extraordinaire. Donc on dépêche là rapidement un archéologue qui était à Bagdad, un archéologue américain, Breasted, qui vient voir ces peintures et qui reconnaît là un art de l'Antiquité, le style gréco-romain, et qui a immédiatement l'intuition que ça peut être le chaînon manquant entre l'art donc gréco-romain d'Orient et l'art byzantin. Et donc, eh bien, ça justifie à ce moment-là que l'on commence des fouilles.
Il en a l'intuition ou ce qu'il voit déjà le confirme?
Pour le moment, ce n'est qu'une intuition, parce qu'il connaît l'art byzantin, il n'en a pas une connaissance, et lui est plutôt spécialisé dans l'Orient ancien, mais il a une grande culture, comme tous ces grands archéologues de l'époque, et il a cette idée que ces fresques-là pourrait être extrêmement importante pour l'histoire de l'art.
Alors expliquons bien cette histoire ce concept de chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on connaît bien effectivement l'histoire, l'art de l'Empire romain.
On connaît la peinture et l'art de l'Empire romain, oui, gréco-romain. On en connaît la statuaire, on en connaît et on connaît l'art byzantin à partir du 9e surtout au Moyen Âge. Mais il y a un grand trou de plusieurs siècles entre les deux. Or ces fresques-là qui sont datées donc du 3e siècle après Jésus-Christ viennent donner une image intermédiaire. Et donc, l'intuition de l'importance du site est immédiatement comprise. Et on est là, cette découverte accidentelle a lieu le 30 mars 1920, très exactement. Et le 25 avril, la Société des Nations accorde un mandat à la France pour sur la Syrie. Et donc en fait ce sont les Français qui vont réaliser la première fouille, une délégation de l'Académie des inscriptions et belles-lettres sous la direction de Franz Cumont va venir réaliser deux premières missions sur le site. Après il y a de nouveau des troubles qui suspendent le travail et puis ensuite c'est une mission organisée par l'université américaine de Yale, en collaboration avec l'Académie des inscriptions des belles-lettres, qui va reprendre les fouilles à partir de 1927. Mais ce n'est qu'en 1931 qu'ils vont à nouveau s'intéresser à toute cette partie qui est protégée par les remparts, là où les Britanniques avaient découvert d'abord ces premières fresques. Et donc, ils vont d'abord regarder derrière le fortin, la porte d'entrée du rempart. Parce que ce qu'ils cherchaient, c'était surtout à éclairer les conditions de la chute de la ville.
Dites-nous un peu plus sur cette ville, quand même, les paysages, le contexte, un comptoir du désert, une ville de marchands, un peu comme Palmyre.
Au départ, ça a été fondé par les Grecs, un des successeurs d'Alexandre, Séleucos Ier, à la fin du IVe siècle, quand le partage de l'empire d'Alexandre après la mort de celui-ci a attribué à ce Séleucos, la Syrie, en gros, la Grande Syrie et la Mésopotamie. Toute la partie, donc, levantine jusqu'en Mésopotamie. Et donc, lui fonde cette Europos, cette ville sous le nom d'Europos, Europos étant le nom de sa ville de naissance en Macédoine, et il le fonde comme une petite forteresse qui contrôle d'abord le trafic fluvial.
Sur l'Euphrate,
voilà. Toutes ces marchandises qui partaient de Babylone remontent l'Euphrate en direction pour rejoindre ensuite Antioche et le trafic méditerranéen. Au départ, c'est une forteresse de contrôle pas militaire. Mais il se fait que toute cette rive de l'Euphrate va être extrêmement disputée entre le royaume séleucide, comme on l'appelle, et l'empire parthe qui s'installe, qui se déploie donc à l'est de l'Euphrate.
Donc les séleucides plutôt de culture grecque.
Grecque. Les séleucides sont des Grecs.
Et les parthes.
Et les parthes sont des Iraniens, des Perses. Et à ce moment-là, la fonction de Doura Europos est une fonction essentiellement militaire. Il s'agit de protéger la frontière, le limès, comme Limès, comme il l'appelait, contre la pression des successeurs des Parthes, qui sont les Sassanides. Vous voyez, en fait, il y a tout un jeu de stratégie, de surveillance, de
Donc une ville qui était un petit bastion, une forteresse à l'origine, prend de l'importance parce que le Frat devient la frontière de l'Empire romain d'Orient. Alors pourquoi trouve-t-on des... Alors maintenant nous savons qu'il y a une synagogue, qu'il y a cette première trace d'église. Pourquoi trouvons-nous ces religions finalement?
Oh, alors parce que Doura Europos était un lieu extrêmement mixé. Donc la ville n'avait jamais cessé d'avoir ce caractère grec même du temps des Parthes, mais elle avait été extrêmement marquée par la domination des Parthes. C'était un lieu de rencontre. Il y avait des communautés qui venaient d'un peu partout. Il y avait une communauté palmyrénienne, par exemple. Les Palmyréniens avaient leur temple à leur propre dieu. Dans Doura Europos, il y avait un peu tous les cultes de l'Antiquité étaient représentés, de l'Antiquité orientale étaient représentés là. Un temple à Jupiter, un petit temple à Jupiter de l'Ikéne, à ce moment-là, il y avait un Mithréum, c'est ce culte...
Mithra.
De Mithra, exactement, un dieu d'origine perse qui avait été adopté par les militaires romains et qui l'ont diffusé un petit peu partout dans l'Empire. On en a trouvé un récemment, par exemple, en Corse, un Mithréum. Voyez, donc, c'était une sorte de grand melting pot culturel. Et ce melting pot culturel se traduit, effectivement, par différents bâtiments religieux qui étaient décorés, mais décorés par les mêmes peintres. Il n'y avait pas, chacun n'arrivait pas avec ses peintres, non, il y avait des peintres et on retrouve le même style, que ce soit dans les temples païens, dans le Mithréum, dans la synagogue et dans la chapelle, dans le baptistère de la maison chrétienne.
La ville est abandonnée après une conquête militaire.
Alors, ce sont finalement les Sassanides qui viennent faire le siège de la ville en 256. Les Romains se préparent à ce siège en doublant les remparts de l'intérieur. Et pour cela, ils construisent un grand glacis qui va ensevelir tous ces petits cultes, tous ces petits lieux de culte qui se trouvaient à l'abri des remparts. Et c'est ainsi que la synagogue, qui était contre le rempart, se trouve protégée, en tout cas protégée très partiellement, puisque toute la partie qui dépassait de ce glacis a été arasée. Donc c'est comme ça qu'on a une partie des murs qui sont conservés en oblique. Vous voyez la trace dans la conservation, la trace du talus de protection.
Et les couleurs sont...
Alors les couleurs ont été conservées grâce au climat, qui est un climat plus sec, pas qui n'y pleuve pas, mais en tout cas on a un cadre climatique, un contexte climatique qui était favorable à la conservation de ces fresques.
Nous sommes ce matin avec Estelle Villeneuve pour parler du site de Doura Europos à partir d'un livre qui vient de sortir aux éditions Bayard, Sous les pierres, la Bible, les grandes découvertes de l'archéologie. Alors nous parlions d'une synagogue, dites-nous un peu plus sur cette synagogue. Nous sommes en 1931.
32,
voilà. Un archéologue américain et je crois qu'il y a un directeur des fouilles ou un adjoint qui est français. Donc une véritable collaboration. Qu'est-ce qui se passe avec cette synagogue?
Alors, cette synagogue intervient à la suite d'une série de dons, la maison de découverte exceptionnelle à la campagne de 31. Alors, à la fin de la campagne de 31, un petit peu plus contre le rempart, il voit apparaître une ligne de plâtre plâtré, une sorte de mur, voilà. Et donc, ils comprennent qu'ils vont peut-être avoir une nouvelle découverte d'un bâtiment peint. Mais il faut attendre l'année suivante, il faut attendre la campagne suivante. Il fouillait quand même près de 6 mois par an, mais il n'empêche qu'il s'arrêtait pendant toutes les années d'été, il fait trop chaud à cet endroit-là. Donc ils reprennent la fouille en octobre et ils dégagent cette crête plâtrée et qui confirme qu'il y a là une grande salle. Alors là, c'est une question de stratégie de fouille, parce que s'ils décapent tout l'intérieur, ils risquent de mettre... en danger les murs.
Qui peuvent s'effondrer.
Donc ils décapent de part et d'autre du mur, de chaque côté. À un moment, ils n'arrivent pas encore au bas, mais suffisamment bas pour dire on peut abattre. Et alors, de façon très solennelle et presque théâtrale, tous ces archéologues se retrouvent devant le mur et on abat le pan qui protégeait encore la mosaïque. Et là, c'est le choc. Le directeur des fouilles, qui est alors John Hopkins, raconte qu'ils étaient le souffle coupé de voir toutes ces scènes apparaître, des scènes avec de couleurs extrêmement vives, dans les rouges, dans les ocres. C'est absolument somptueux. Alors, ça se présente comme une série de panneaux carrés sur trois registres, avec une niche au centre, une niche surmontée d'une coquille, et sur les côtés, donc les murs latéraux qui sont eux taillés en oblique dans le sens de la pente. Tout de suite, ils voient mais ils comprennent pas bien ce qui se passe. Ils voient la représentation d'une tour.
Oui.
Ils voient un personnage debout avec d'autres personnages derrière lui, une sorte de procession. On ne peut pas dire qu'ils comprennent immédiatement le sens de ce décor. Et c'est l'assistant français de Hopkins, qui est un personnage tout à fait intéressant, Robert Duménil du Buisson, qui était un officier de l'armée française et qui est à la fois un hébraïsant, un sémitisant, collaborateur des inscriptions de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, et qui est donc qui sert à la fois d'archéologue, de co-directeur à Hopkins, mais qui est aussi l'agent de liaison de l'armée avec l'autorité mandataire de Damas.
Et donc, et que dit-il ?
Alors, lui repère une inscription qui se trouve au pied d'un personnage. Et il peut la lire. Et il est indiqué « Moïse sortant d'Égypte et fendant les eaux ».
Et c'était la première fois.
Il comprend.
Et c'est la première fois que nous voyons apparaître des fresques.
Des fresques
dans une synagogue.
Dans une synagogue. Donc là, c'est la surprise. La surprise, c'est donc une synagogue avec des peintures. Et c'est évidemment qu'est-ce que tout le monde avait dans l'esprit ? Impossible d'avoir des images dans une synagogue, puisque l'Exode et le Deutéronome, le Décalogue, interdit la production d'images. Tu ne feras pas d'images dans le ciel, sur la terre et sous les eaux. Donc la représentation du vivant est interdite par la Torah, ou du moins c'est l'interprétation la plus classique, l'interprétation de ce verset-là. Or, là, eh bien, on en a un démenti. Il y a des images, il peut y avoir des images dans une synagogue. On est là au 3e siècle après Jésus-Christ, donc au milieu du 3e siècle après Jésus-Christ, et on est de plus de deux siècles après la chute de Jérusalem et la chute du Temple, et donc le développement, le grand développement du courant synagogal, puisque les sacrifices ne sont plus possibles dans le temple de Jérusalem, qui est inexistant.
Et dans la foulée de cette découverte, quelque temps après, les fouilles continuent.
Les fouilles continuent.
Et cette chapelle, donc cette Domus Ecclesia.
Alors, la Domus Ecclesia avait été découverte, elle, en 1931. Et cette chapelle, elle, présentait également des représentations, alors là plutôt des évangiles, quoi qu'il y avait aussi une représentation, par exemple Adam et Ève de l'Ancien Testament, mais ça représente le Christ portant un agneau sur ses épaules, donc en bon pasteur.
Le même artiste peut-être, dites-vous ?
Ben, des mêmes artistes, non, là il y a des reprises, par exemple Adam et Ève a été rajouté sur le panneau du Bon Berger, mais sur les murs il y a une procession de femmes assez détériorées. Hein. La maison chrétienne est beaucoup moins bien conservée que la synagogue.
Maison chrétienne, dites-vous ?
Oui, je parle de maison chrétienne parce que le terme le plus classique de Domus Ecclesia est un terme forgé au XIXe siècle et c'est un terme latin, donc je préfère utiliser un terme français puisque, voilà, qui fait peut-être un peu moins savant. Mais la Domus Ecclesia, ça veut dire maison de l'assemblée. Ecclesia, c'est l'assemblée. C'est dans le fond la même étymologie que la synagogue, qui veut dire qu'il est aussi une maison pour l'assemblée. Et donc, on appelle aujourd'hui dans le langage savant Domus Ecclesia ces maisons où se rassemblaient des chrétiens avant que ne se développe un plan d'église conventionnel, qui est le plan basilical ou le plan des églises carrées, et qui est dans le fond, qui coïncide avec la légalisation du culte chrétien par l'empereur Constantin en 313 et puis 324 après le concile de Nicée. Et donc à ce moment-là, les églises officielles se répandent et on a besoin de plans, d'un plan pour pouvoir construire des grandes basiliques. Et c'est un plan qui va être repris à la basilique romaine, qui est le lieu où s'exerçait la justice. Et on trouve que, de toute façon, c'est une solution architecturale qui est la plus adaptée pour contenir des grandes assemblées.
Nous parlions de chaînon manquant tout à l'heure pour l'histoire de l'art, mais là nous avons véritablement un chaînon pour cette architecture qui deviendra celle des églises ensuite.
Alors cette architecture, on est encore dans le cadre d'une architecture privée, d'une maison privée. D'ailleurs, au départ de la maison de droit Europos, on a une maison
privée. On a une date.
Alors, il y a l'adaptation, la réorganisation de cette maison privée est datée par une inscription, vraiment quelle chance, de 232-233 après Jésus-Christ. Donc, on a une date, ce que les archéologues appellent une fourchette chronologique parfaite entre 232 et 256, qui est la destruction de la ville et de la maison. Donc on est absolument sûr qu'on a bien là une maison qui est antérieure à la légalisation du culte. Ce qui est tout à fait surprenant, puisque le culte est interdit officiellement. On a une période...
Mais nous sommes loin, nous sommes dans le désert peut-être.
Oui, mais qui est quand même marquée par des poussées de persécution. Et on est surtout dans le cadre de l'armée, parce que Doura Europos était une ville garnison. Or là, au cœur de l'armée, on a une société militaire qui, dans le fond, prend certaines libertés avec la loi.
Deux petites choses pour rassurer nos auditeurs, parce que c'est une zone de conflit actuellement, Doura Europos. Les fresques de la synagogue et les fresques de la maison de prière ont été déménagées,
voilà, elles sont à l'abri. La synagogue, il y a longtemps, au moment des fouilles déjà, la synagogue est conservée au musée national de Damas, et tandis que les fresques de la chapelle sont conservées à la Yale University Art Gallery, donc aux États-Unis, et ils ont fait l'objet d'une très belle restauration récemment à l'occasion d'une grande exposition, à la suite de quoi, il y a d'ailleurs des choses extrêmement intéressantes qui ont été révélées, en particulier la réinterprétation d'une fresque de la chapelle qui était interprétée, qui représente une femme au puits, au bord d'un puits, qui était interprétée jusque-là comme une image de la Samaritaine, et qui a pu être réinterprétée comme une des plus anciennes représentations de la Vierge Marie.
Estelle Villeneuve avec nous ce matin, merci.
Merci, merci à vous.
Sous les pierres de la Bible, les grandes découvertes de l'archéologie qui vient juste de sortir aux éditions Bayard. Je rappelle aussi que vous êtes journaliste pour Le Monde de la Bible. Voilà une revue merci. Qu'il faut suivre, à laquelle il faut s'abonner. Je remercie Anne-Catherine Lochard, Dany Journaud, Bernard Lanier pour la réalisation de cette émission. Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Et nous retrouvons maintenant le service protestant et Michel Schaeffer.